Et donc, nous invitons tous à venir et prier pour la campagne de Luis Palau. Et la réunion de mardi est annulée pour encourager tout le monde à venir en même temps mercredi soir. Nous ne voulons pas non plus oublier de remercier le Seigneur. Je vais peut-être laisser la parole à Luis et Monique en parlant de réponses tardives. Amen. Merci. Un bon témoignage. Dieu honore sa parole et notre façon d'honorer Dieu, c'est la foi. Et donc, il est dit que la seule façon de plaire au Seigneur, c'est la seule chose qui puisse lui plaire, c'est notre foi. Amen. Prions. Ah, pardon. Oui, Thierry. Ah, pardon, j'ai oublié. Je voulais dire que lundi 31, et merci de me le rappeler, le camion est prêt, l'appartement est là, maintenant il faut des bras. Des gros bras ou des petits bras. C'était un test de ta foi, Louis. Donc, tous ceux qui peuvent être libres lundi matin, je sais que c'est un jour de semaine, mais peut-être parmi vous, il y a des étudiants, des gens qui seront disponibles. J'ai mauvaise conscience à le dire parce que moi, je serai parti. Je pars à Londres pour une conférence de Calvary pour 3 jours. Mais je crois que ce sera aussi très encourageant et plaisant au Seigneur, comme disait Thierry, de nous aider les uns les autres en aidant Louis et Monique. J'ai plein de cartons pour vous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Parce qu'elle nous révèle la vérité de ce qui se passe dans le secret des cieux. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Aide-nous à la comprendre ce matin. Amen. Dans la première épître de Jean, on peut lire au verset 2:18. « On peut lire, mes enfants, la fin est proche et l'antéchrist arrive. First John 2:18. La Bible nous explique que dans un futur qui pourrait être très proche, un homme va arriver sur la scène mondiale qui va littéralement fasciner le monde par son influence et son charisme. On voit John Kennedy, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Gorbatchev. Imaginez la meilleure combinaison possible de ces personnes. Il va faire l'approbation de tous. Et pendant une période de 7 ans, il sera le leader, pratiquement le dirigeant de la planète. Mais il va amener la Terre au seuil de la destruction totale. Car il va se révéler comme l'homme le plus mauvais, le plus diabolique qui ait jamais vécu. La Bible nous dit qu'il sera en fait contrôlé par Satan lui-même. La Bible a plusieurs termes tout au long de ses livres pour parler de lui. Si vous voulez les références, vous pouvez me voir après, mais je vais lire quelques-uns de ses titres. Lisons sa carte de visite, en quelque sorte. Il est l'homme de sang et de ruse. Il est l'homme violent. Il est le roi de Babylone. Il est le traître. Le dévastateur. Le profanateur. Le méchant. Le prince d'Israël, l'homme puissant, l'animal terrible, la corne, le roi arrogant, expert en tromperie, l'homme méprisable, despicable. Le berger insensé, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu, le séducteur, finalement l'antichrist. Dans notre passage aujourd'hui, il est appelé la bête. Sous-entendu, la bête sauvage. Bref, c'est pas la personne à qui on aimerait acheter une voiture d'occasion. Tous ces termes que je viens de lire, ça représente l'idée que Dieu se fait de lui. C'est-à-dire la vérité sur lui. Par contre, la réaction du monde, ce sera l'opposé. Nous allons voir que la terre et entière et remplie d'admiration, et elle suit la bête. Commençons à lire.
So let's begin to read.
Chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête, je vous laisse chercher, c'est page 285, le dernier livre de la Bible, chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fit donner une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Nous voyons que la terre entière se prosterne devant la bête. En disant qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. Nous allons voir le lien entre le dragon, c'est-à-dire le diable, et cette bête. Et on voit que le diable arrive à se faire adorer. Il est dit, il se prosterne devant le dragon. On sait que le dragon, c'est le serpent ancien appelé le diable et Satan. Et lorsque les gens disent qui est semblable à la bête et qui peut la combattre, ça nous rappelle Moïse dans Exode 15, 11, qui disait qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles. C'est une caractéristique de l'homme. Nous avons été créés pour adorer notre Créateur. Si nous ne l'adorons pas, lui le Créateur, ce besoin d'adorer reste là. Les gens cherchent toujours quelqu'un à adorer. C'est des caractéristiques, même dans le régime communiste, qui disait que la religion c'était l'opium du peuple. On avait embaumé Lénine et Staline. Et les gens faisaient la queue pendant des heures pour voir leur dépouille mortelle. C'est pas du pragmatisme. C'est de la religion. On le voit dans notre société. on nous prépare un anniversaire de la victoire de l'an dernier, en foot. Je crois qu'on va voir à la télévision, si vous n'aimez pas le foot, vous êtes mal tombé. Et c'est bien d'apprécier les résultats, les efforts. Mais quand on voit la foule qui s'était répandue sur les Champs-Élysées, les images projetées sur l'Arc de Triomphe, Zidane, Petit, c'est de l'adoration. Les chanteurs, c'est la même chose. Le cinéma, les Oscars, les gens sont là. Qui va-t-il être? Les gens se complimentent entre eux. Et ce qui va être une conjonction, c'est que les gens ont ce besoin d'adorer quelqu'un. C'est que nous avons de graves problèmes dans le monde. Nous avons la guerre en ce moment au Kosovo. On a des problèmes économiques. La montée des nationalismes. La pollution. Tous les problèmes de chômage. Les maladies. Le sida. Et on pourrait continuer à faire une liste des problèmes et des problèmes qui nous entourent. Et c'est vrai que depuis longtemps, il n'y a pas eu d'homme d'État de grande qualité. Des gens comme justement c'est Roosevelt, Churchill ou De Gaulle. Aujourd'hui, bien souvent, nos choix électoraux, la question se résume à qui est le moins mauvais. Sans doute, on va avoir Jospin contre Chirac bientôt. Mais ils pâliront en comparaison de cet homme qui donnera l'impression d'avoir la réponse aux problèmes de notre monde. Et je crois que le monde est de plus en plus mûr pour l'arrivée d'un tel personnage. Il est dit au verset 1 qu'il a vu monter, donc Jean qui nous parle, il a vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La mer représente souvent dans l'Apocalypse et dans la Bible, l'humanité dans sa multitude. Le 12 juillet dernier, il y avait une mer de personnes sur les Champs-Élysées, la marée humaine. Jean nous parle de l'esprit de l'Antéchrist. Mais au verset 18, il nous est dit qu'il s'agit d'un homme. Le nombre dont il est question est le chiffre d'un homme. Et puis, il y a ce visage particulier puisqu'il a 10 cornes et 7 têtes. et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Ça nous rappelle ce que nous avions vu pour le dragon au chapitre 12, verset 3. Un autre passage que nous étudierons au chapitre 17 de l'Apocalypse nous dit que ces sept têtes sont d'abord sept collines. La ville universellement connue pour ces sept collines, c'est bien sûr la ville de Rome. Souvent, les villes essayent de trouver leurs sept collines à elles. Je sais que Seattle a ses sept collines aussi. Et je crois qu'à Nice, on pourrait aussi trouver nos sept collines. Mais les commentateurs ont la conviction qu'il s'agit là d'une évocation de la ville de Rome. Dans le même chapitre 17, il est dit que ces sept têtes représentent aussi sept empires. Et si on considère l'histoire de l'humanité, il y a eu sept grands empires. Le dernier étant à venir. Le premier, c'était l'Égypte. Ensuite, l'Assyrie, c'est-à-dire Babylone. L'Assyrie, puis Babylone. Ensuite, la Grèce, l'Empire d'Alexandre. L'Empire romain, qui s'est écroulé au 5e siècle de notre ère, en 476. Et puis depuis, les hommes de l'histoire ont essayé de reconstituer cet empire. On peut citer Charlemagne, Napoléon, Hitler ou Mussolini ont essayé de reconstituer cet empire romain. On a déjà parlé de Daniel et du chapitre 9. On va voir que ces symboles nous ramènent à deux prophéties de Daniel. Juste un mot pour dire que les dix cornes représenteraient 10 nations. On ne va pas le lire en détail maintenant, mais vous savez, si vous avez lu Daniel, que dans Daniel 2, il y a un rêve. Le roi Nabucodonosor, avait fait un rêve qui l'avait profondément troublé. Il était le roi de Babylone. Il voulait en connaître l'interprétation. À la cour, il payait des magiciens, des astrologues, des sages. Et il s'est dit, je vais les utiliser. Donc il les a fait convoquer. Il leur a dit, je veux que vous me disiez de quoi j'ai rêvé. Et que vous me donniez l'interprétation du rêve. Certains pensent que peut-être il avait, des fois on oublie un rêve qui peut nous laisser en émoi.
Sometimes we have a dream that we forget, but we still have the emotions after.
Je crois que c'était plutôt une garantie pour savoir si ces sages étaient vraiment capables de deviner les choses. Je veux l'interprétation. Mais pour être sûr que votre interprétation peut être valable, je veux que vous me disiez aussi le rêve. Il leur a dit, sinon je vous réduis en pièces. Et la réponse de ces sages, de ces mages et astrologues, ça a été de dire, mais c'est impossible. Il faudrait des dieux, pas des hommes, pour faire cela. Nabuchodonosor leur a dit, vous essayez de gagner du temps, dépêchez-vous, sinon vous êtes morts. Ces hommes ne savaient que faire, et donc le roi a publié un décret pour annonçant leur exécution. Et ça devait inclure un groupe de jeunes gens d'Israël, parce que Babylone avait conquis Jérusalem et avait ramené en exil à Babylone des Juifs. Parmi eux, il y avait un jeune homme qui s'appelait Daniel, et trois de ses amis, Anania, Michaël et Azaria. Et ils avaient été élevés à la cour du roi, et ils faisaient partie, parce qu'ils avaient montré une grande sagesse, ils faisaient partie de ces gens qui allaient être exécutés. Mais Daniel, lorsqu'il entend la nouvelle, il leur dit, attendez, nous allons pouvoir vous répondre. Il fait une réunion de prière avec ses amis en demandant à Dieu la réponse, sinon ils seront perdus. Et il est dit dans Daniel 2:19, « Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Daniel retourna voir le roi pour lui donner la réponse en donnant la gloire à Dieu. En lui disant que ça c'était impossible aux hommes, mais qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères. Et donc il continue en décrivant le rêve au roi Nabuchodonosor. Et on peut imaginer la stupéfaction du roi. Imaginez que vous demandiez à quelqu'un de vous dire de quoi vous avez rêvé. Et qu'au fur et à mesure de la description, vous dites, mais oui, et oui, oui. Vous allez prêter l'oreille à ce que la personne va dire, n'est-ce pas? Et donc, dans ce rêve, il y avait le roi voyait une grande statue. Et Daniel lui dit, tu as vu cette grande statue? Elle avait une tête d'or, en or. Eh bien, toi, Nabuchodonosor, tu es cette tête. Babylone, c'est la tête d'or. Ensuite, le métal changeait. La poitrine et les bras, le torse et les bras étaient en argent. Et il lui disait, en fait, il viendra après toi un empire pas aussi puissant que toi. L'empire des Perses. Puis ensuite, le ventre et les cuisses étaient en bronze. Et Daniel explique, ce sera l'Empire grec. Qui atteint son apogée avec Alexandre. Ensuite, en continuant la description de la statue, il arrivait à des jambes en fer. Il lui dit, ça ce sont des... c'est l'Empire romain. Et puis, la statue se terminait par des pieds en mélange de fer et d'argile. Et on pense que justement c'était un empire avec une alliance pas très forte. Entre 10 nations. Peut-être symbolisée par les 10 orteils. Mais ce n'est pas tout dans le rêve. Il y avait cette statue. Et Daniel lui dit, tu as aussi vu une pierre qui est tombée sur les pieds de la statue. Et toute la statue fut détruite, réduite en poussière. La poussière dispersée par le vent. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Et ça, c'est le royaume éternel de Dieu. Ça, c'est la prophétie de Daniel par le rêve de Nabuchodonosor.